La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole.
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
filles. Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Vivez avec France Culture.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Poursuivons en compagnie de Denis Knopfler la lecture du livre neuf de la Périégèse que Pausanias écrivit au deuxième siècle de notre ère sur la Béotie. Le texte nous entraîne dans la ville de Thèbes que Pausanias décrit comme une ville délaissée, une ville décrépite. Nous connaissons cette ville par la mythologie. Héraclès serait né à Thèbes et bien entendu Œdipe en fut roi dans les conditions qu'on sait. Thèbes fut en effet une des villes les plus brillantes de l'Antiquité avant sa destruction par Alexandre en 335 avant Jésus-Christ. Elle fut également conquise par les Romains en 86 avant notre ère, ce qui contribua à son délabrement. À l'époque où Pausanias visite Thèbes, que reste-t-il, se demande Denis Knopfler, de la cité glorieuse de Pindare. L'art thébain, et singulièrement la musique, excellait dans cette cité. Mais ce cours d'épigraphie et d'histoire des cités grecques n'est pas seulement un commentaire du livre de Pausanias. Il en est une relecture moderne. En effet, Denis Knopfler, en épigraphiste, philologue et archéologue, réinterprète Pausanias à l'aide des découvertes et des recherches les plus récentes. Ainsi, l'érudition de Pausanias, alliée à l'érudition la plus moderne, permettent de retrouver la vie vivante de cette ancienne cité.
Toute la ville basse et Catopolis se trouvaient pratiquement désertées. Mis à part les sanctuaires, pleine Taïra, seul restait dans ces monts occupés l'acropole, la Cadméa, qui désormais d'ailleurs s'appelait tout simplement Thébaï, Thèbes. Cette longue butte aux pentes relativement abruptes à l'est et à l'ouest, ou disons ici sur ce plan qui est orienté nord-sud, en haut et en bas, elle s'allongeait sur environ 700 mètres, mais elle devait donner l'impression de se détacher d'autant plus nettement des collines environnantes que précisément elle était entourée d'un site déserté. On comprend ainsi qu'en visitant la Laconie, Pausanias ait pu opposer au site de Sparte, qui lui est totalement dépourvu d'acropole, celui d'Argos, d'une part, avec la montagne Larissa, et celui de Thèbes, avec la Cadmée. Bien que l'acropole thébaine soit beaucoup moins impressionnante que la montagne rocheuse qui surplombe Argos, et donc au livre 3, chapitre 17. De son voyage antérieur en Béotie, lui restait manifestement le souvenir d'une ville de Thèbes bâtie sur la hauteur, parfaitement distincte par rapport au champ de ruines où de place en place s'élevaient peut-être les colonnes d'un temple. Comment, dans ces conditions, reconnaître et identifier les monuments appartenant à la ville aux sept portes et d'abord l'emplacement de ces pulailles elles-mêmes? L'opération n'était certainement pas chose aisée pour Pausanias, encore que il se montre étonnamment discret sur les difficultés de l'entreprise. Et la tâche des modernes, après lui, au terme d'un long processus de destruction, de reconstruction pendant toute l'époque byzantine, franque, ottomane et moderne, ne l'a pas été davantage, on s'en doute. Pour s'en convaincre, il paraît utile d'examiner rapidement ici quelles ont été les principales étapes de la redécouverte de Thèbes par les archéologues. Il s'agit d'ailleurs d'une histoire relativement récente, voire très récente. Certes, Thèbes n'est pas restée inconnue des voyageurs occidentaux en Grèce à partir de la Renaissance italienne. Mais leur témoignage, quel que soit leur intérêt historique, est d'une faible utilité pour la topographie, du moins avant le milieu du XIXe siècle. Rappelons que le premier voyageur européen à avoir laissé un souvenir de son passage à Thèbes, comme en bien d'autres lieux du Levant, fut le marchand humaniste syriaque d'Ancône, qui y arriva le 30 mars 1436, à l'occasion d'un voyage de Delphes à Athènes. Donc il y a à peu près de cela 570 ans, presque jour pour jour. Syriaque, comme à son habitude, il copia plusieurs inscriptions, notamment l'honneur d'empereurs romains, mais on ne sache pas qu'il ait fait une description du site tel qu'il pouvait être alors, ni tenté d'en localiser les monuments connus par la littérature. Il faut bien voir que ces moyens étaient extraordinairement réduits, puisqu'il ne connaissait manifestement pas Pausanias. Et on ne saurait en être surpris, il n'y avait en effet alors en Italie qu'un seul manuscrit de la Périégèse, en possession d'un érudit florentin, Niccolò Niccoli, manuscrit dont très peu de contemporains avaient eu connaissance et qui d'ailleurs a disparu à la fin du XVe siècle après avoir été copié une ou deux fois. C'est dire qu'il s'en est fallu de peu, entre parenthèses, que cette œuvre que nous commentons aujourd'hui est sombrée définitivement au XVe siècle. Mais, évidemment, dès sa reproduction par l'imprimerie à partir de 1516, la Périégèse devint le guide, le vade-mecum de tous les voyageurs cultivés. Il est certain en tout cas que le médecin lyonnais Jacob Spon, qui parcourut l'Italie, la Dalmatie, la Grèce et le Levant, pour reprendre un élément du titre bien connu de cet ouvrage, sous le règne de Louis XIV, avait lu Pausanias quand il visita le site de Thèbes au printemps 1676. En effet, après avoir évoqué la décadence de Thèbes à l'époque romaine, s'appuyant sur le témoignage de Strabon, comme je viens de le faire, il allègue expressément la Périégèse, et voici ce qu'il écrit. « Pausanias, qui vivait après lui, donc après Strabon, nous fait néanmoins mention de plusieurs statues, de temples, de monuments qui y étaient. Mais, ajoute-t-il, il serait présentement bien difficile d'en pouvoir justifier quelque chose, la ville étant réduite à ce qui n'était autrefois que la forteresse appelée Cadmeia, dont les murailles et quelques tours carrées qui y restent sont fort antiques. » À vrai dire, ces tours carrées, cette muraille que Spon avait pu voir, était sans doute une muraille franque et médiévale. Elle est, ajoute-t-il, sur une éminence d'environ une lieue de tour, donc environ 4 kilomètres. Mais dès alors, selon toute apparence, l'enceinte de la véritable enceinte antique de l'Académie était à peu près invisible. Aussi n'a-t-il même pas évoqué le problème des 7 portes, clés de voûte de toute la topographie thébaine. Pour que cette question fût abordée autrement que par des hellénistes de cabinet, il faudra attendre pratiquement le retour de la Grèce à l'indépendance, au début du XIXe siècle, qui s'accompagne bien sûr d'un regain d'intérêt pour ces antiquités. Mis à part quelques précurseurs, sur lesquels nous pouvons passer ici, on peut dire que le véritable pionnier de la recherche topographique fut l'Allemand Heinrich Nikolaus Ulrichs, qui voyagea en Grèce vers 1840 et laissa, dans le second volume posthume de ses Reisen und Forschungen in Griechenland, 1863, une série d'études souvent fondamentales. Son essai intitulé « Topographie von Theben » avait déjà paru une première fois en 1841. Comme ses devanciers, il reconnut que la ville moderne correspondait à l'antique Cadmée. Mais le plan qu'il leva sur place, et vous avez sous les yeux, et qui est bel et bien le premier, on peut dire, que l'on ait fait de Thèbes, montre que pour lui, l'enceinte de la Cadmée, de la colline ici, était totalement indépendante de celle de la ville basse qu'il trace dans un pourtour plus important. Cette enceinte de la ville basse, tout à fait indépendante, serait celle où se trouvaient les sept portes de la tradition mythique et historique. Il estimait en effet que la ville, dans le sens de la largeur, est-ouest, s'étendait des berges de la rivière Isménos, ici, identification certaine, à celle vers l'ouest de la Dirkée. Donc la ville étant bien enserrée entre ces deux cours d'eau parallèles. Sur tout le pourtour de cette muraille, il place donc les sept portes en fonction des données qu'il trouvait chez les auteurs. En fait, de vestiges, il n'en avait aucun, il faut bien le comprendre. Et ces auteurs, c'était en premier lieu Pausanias, poète tragique aussi. Il adopte pour ces portes la succession suivante. Première fois que vous entendrez, vous réentendrez le nom de ces portes. Electrae, Homoloides, Proitides, Crenaiae, Neitae, Upsistae et Oguieiae. On reviendra naturellement sur ces noms, quelques-uns d'entre eux en tout cas, et l'emplacement des portes. Et cet ordre ne sera pas toujours celui qui sera adopté par ses successeurs. Mais parfois, peut-être à tort. Quant à leur emplacement exact, il a été d'autant plus discuté que le tracé même de cette enceinte, de cette vieille muraille, l'Archaios Peribolos de Pausanias, restait très largement conjectural. Une dizaine d'années plus tard, c'est un autre antiquisant allemand, Forchhammer, bon connaisseur lui aussi de la Béotie, qui en 1854 publie une Topographia Thebarum Heptapularum. Et lui est tenté de d'étendre, je n'ai pas le plan à vous montrer, d'étendre l'enceinte vers le sud, de manière à faire correspondre le périmètre de la ville à des données que l'on avait par ailleurs, en dehors de Pausanias, puisque un auteur, on y reviendra, donnait le chiffre de 43 stades, ce qui est considérable, 7-8 kilomètres, sinon même 70 stades pour un autre, pour l'ensemble du périmètre de l'enceinte de Thèbes. Mais il faut bien dire que cette extension vers le sud a un caractère arbitraire, voire totalement impossible pour diverses raisons, et cela a été démontré une génération plus tard par un troisième chercheur allemand, Ernst Fabricius, qui reprit toute la question, c'est un mémoire plus important à coup sûr, qui aboutit au plan que vous avez ici sous les yeux, tout en relevant d'ailleurs d'entrée de jeu la pauvreté du site de Thèbes en vestiges antiques, de quelque ampleur, donc ça c'est pas un phénomène tout récent. Ce chercheur a orienté ce chercheur qui était un bon connaisseur du vocabulaire architectural, il a fait des travaux dans ce domaine, put faire tout de même deux brefs séjours à Thèbes en 1885 et 88. Une seule journée d'ailleurs, mais une journée bien remplie, manifestement. Et il fait des observations d'un intérêt certain. Sur la base de trouvailles qu'il fait, notamment de tuiles peintes, il étend l'enceinte considérablement vers l'est. Vous voyez, donc désormais on a franchi la rivière Dirkée à l'ouest, et l'enceinte, selon Fabricius, englobe un vaste terrain d'un demi-kilomètre de large vers l'ouest. Donc cela lui permit d'établir que l'enceinte thébaine, dans sa plus grande extension, avait dû englober une surface bien plus considérable qu'on avait cru jusqu'ici. Alors que du côté est, il reste à peu près sur la frontière, on peut dire la limite de ses prédécesseurs, puisqu'il y a des collines ici. Il ne franchit pas l'Ismenos. Il met l'enceinte sur la base d'indices archéologiques plus ou moins importants sur cette ligne proche, relativement proche de la Cadmée. Cette vaste enceinte, donc, qui ne devait pas se confondre avec celle de la Cadmée, sinon sur son flanc sud, ça c'est une chose qu'il établit aussi, ou qu'il précise par rapport à Ulrich, ici là, les deux enceintes se confondent, atteint une longueur d'environ 7-8 km, ce qui correspond donc de manière tout à fait satisfaisante à la donnée fournie par un poète hellénistique géographe, Dionysos, fils de Kalyphon, qui dit très clairement dans un vers iambique, puisqu'on écrivait volontiers les ouvrages scientifiques en vers, que l'enceinte de Thèbes avait un périmétron de tétaraconta kai proseti trione, que 43 stades. Mais le problème était de savoir s'il fallait ou non identifier avec l'archaios Péribolos, que le roi Cassandre, selon Pausanias, s'était employé à faire relever après 315, cette vaste enceinte de Thèbes. Ne doutant pas, lui, à l'instant, donc Fabricius, de cette identification qui est séduisante, mais pas du tout évidente, Fabricius fut tout naturellement amené à installer sur ce vaste pourtour les sept portes de la tradition littéraire. Par exemple, ici, dans l'angle sud-ouest, les portes Upsistai, et d'autres dans la ligne vers le nord. Et il se fondait en particulier sur Pausanias, qui s'exprime de manière assez claire là-dessus, chapitre 8 et paragraphe 4, je remontre le texte, c'est la fin de ceci. Puisque le Périgète dit « Tebaiois entoi periboloi tu archaiu teikus epta arithmon esan pulai » sur le pourtour, il y a sept portes qui, ajoute Pausanias, subsistent encore aujourd'hui. « Menusin decai es emas eti » D'où le plan donc, que vous avez sous les yeux, une vaste enceinte de Thèbes, distincte de la Cadmée, mais vous notez que les portes de la tradition, en partie mythique, ne se trouvent pas sur la Cadmée, mais dans le vaste Péribolos qui embrasse aussi la ville basse. Ce plan de Fabricius, on peut dire qu'il a été la base pendant très très longtemps. Il a connu un vaste succès. On s'en aperçoit, par exemple, dans le fait que... très peu d'années après, dès 1891, l'épigraphiste français Bernard Aussoulier l'adoptait sans aucune réserve, vous voyez, d'après Fabricius, dans ce qui peut être considéré comme l'ancêtre de nos guides bleus, le guide Johann de la Grèce. Très bon guide d'ailleurs, très intéressant aujourd'hui encore. Et c'est également ce plan qui fut reproduit dans toutes sortes d'ouvrages, le grand commentaire de Pausanias par l'ethnologue Fraser, ou toutes sortes de travaux. Pourtant, il avait été d'emblée attaqué, on peut le dire, par le grand philologue allemand Ulrich von Wilamowitz, dont nous avons vu l'an dernier, peut-être que certains s'en souviennent, qu'il ne faisait pas bien grand cas de la valeur de Pausanias en tant que source topographique et historique. Et ce jeune maître philologue publie en effet en 1891 dans la revue Hermès un article assez féroce de 60 pages sur les sept portes de Thèbes. Bon, il considérait que le travail de Fabricius avait été utile. Il dit un inestimable, je traduis, instrument de travail. Mais il avouait, Il avoue d'ailleurs l'avoir utilisé lui-même lorsqu'il était en voyage à Thèbes. Mais seulement, il jugeait tout à fait impossible, et sur ce point, on ne peut que lui donner raison, qu'une muraille de cette ampleur ait pu exister dès une très haute époque, dès l'époque en fait proto-historique, puisque c'est bien l'âge que implique la présence des sept portes de la tradition mythique ou épique. Autrement dit, l'archaios peribolos de Pausanias devait avoir eu nécessairement un périmètre bien plus réduit, ce qui rendait la reconstruction de Fabricius, la présence des portes ici, totalement en fait hypothétique et même arbitraire. Donc une critique assez radicale. Mais le plus important, peut-être pour Wilamowitz, fut qu'il jeta en quelque sorte le discrédit sur les sept portes elles-mêmes, sur leur existence. Il observait d'une part que dans l'Antiquité, comme encore à l'époque moderne, il n'y avait en réalité que trois voies d'accès naturelles pour monter sur l'Académie, sept, une au sud, une au nord, au nord-est, puis une vers l'ouest. Et de fait, on constate que si Pausanias mentionne bel et bien les sept portes, il n'en a utilisé, si l'on peut dire, que trois. Et puis il y avait une autre objection aussi, tenait à un silence préoccupant, c'est que jamais les historiens, que ce soit Thucydide, que ce soit Xénophon, Diodore, Arien, ne mentionnent cette porte. Hein. Ça ne joue aucun rôle dans ce qu'ils peuvent évoquer de la topographie de Thèbes. Donc, critique sévère qui, d'une certaine façon, discréditer le témoignage de Pausanias, conformément à l'opinion générale, encore une fois, de cet auteur. Ce réquisitoire, évidemment, ne pouvait pas rester sans écho. Beaucoup applaudirent à cette critique. Constatons par exemple que le grand épigraphiste Ollo, Maurice Ollo, une autorité considérable pour l'histoire hellénistique et pour l'abbé aussi en particulier, dans un article de 1898, écrit « Il est bien connu que Pausanias n'a visité Thèbes que dans les livres ». Donc, c'est réfuter le témoignage de Pausanias comme témoin oculaire. Ce n'est qu'un érudit qui n'aurait pas une connaissance directe de la ville de Thèbes. D'autres encore pourraient être mentionnés. Mais notons aussi que c'est précisément dans ces années-là, 1890, qu'eurent lieu les premières fouilles importantes sur le site de la ville. Et dès 1892, l'effort, c'est-à-dire le directeur des antiquités, il y en avait déjà un, qui s'appelait Evstratios Kallopais, qui avait été le principal informateur, d'ailleurs, de Fabricius sur le terrain, put constater que la muraille de la ville basse avait laissé des traces incontestables sur le terrain, sur une ligne nord-sud qui se trouvait encore au-delà de l'Ismenos, ici. Hein. Donc, loin de réduire le plan de Fabricius, les fouilles allaient plutôt l'étendre encore vers l'est. Ces données nouvelles, d'ailleurs, ne furent pas d'emblée exploitées. Elles ont mis un certain temps à s'imposer. C'est ainsi qu'on constate que dans un article de 1910-1911, l'anglais Gommet, qui connaissait très bien la Béotie, défendait une position encore presque exclusivement littéraire, si l'on peut dire, en continuant à mettre les portes sur la grande enceinte. Mais l'idée a fait bientôt son chemin. On en trouve déjà des mentions dès 1894, par exemple, ou plus tard. L'idée fondamentale, à savoir que les sept portes dont il ne s'agit pas, a priori, de nier l'existence, n'avait décidément rien à voir avec la grande enceinte. Elle n'avait rien à voir avec la grande enceinte. Il fallait les mettre toutes sur l'académie, sur la citadelle. Et c'est dans ce sens que va aller la recherche ultérieure, marquée par les travaux, d'abord, de l'archéologue grec Antonios Keramopoulos, qui, après de travaux sur le terrain, a publié en 1917 un véritable livre, bien que ce soit un article, mais qui a 400 pages, dans la revue Archaeologicon Deltion, un mémoire à la fois fondamental, mais qui n'a pas été peut-être beaucoup lu, parce que ce périodique purement archéologique était peu répandu. Il a d'ailleurs disparu comme revue pendant longtemps, mais il n'empêche, c'est une référence fondamentale qui est faite en deux parties. Il y a une partie de fouille d'abord, et puis de réflexion sur la topographie. Et on peut dire que le volet topographique a été d'une certaine manière résumé en français en 1923 dans une revue, à vrai dire, assez difficile à trouver, la revue de l'université Liège, par M. Philippard, sous le titre Pausanias à Thèbes. Donc c'est en quelque sorte une réfutation ou un essai de réfutation des vues de Villamovitz. On verra peu à peu dans quelle mesure aussi cette réfutation est entièrement fondée. Pour le moment, contentons-nous rapidement de mettre en évidence les deux principaux résultats des investigations de Keramopoulos, qui sont tout à fait fondamentales. Je laisse de côté les fouilles de caractère proto-historique dans les nécropoles. Il faut mentionner en premier lieu, pour autant d'abord ici, le plan de Keramopoulos, et vous voyez donc la grande ampleur qu'a prise l'enceinte de la ville, tant à l'ouest qu'à l'est, et au nord, puisqu'elle traverse, elle est censée traverser même la ligne de chemin de fer qui est construite justement dans ces années-là. C'est la ligne qui va d'Athènes à Salonique. Alors, trouvaille tout à fait capitale, c'est celle ici du sanctuaire d'Apollon Isménios. Apollon Isménios, que Keramopoulos découvre, connu par les textes, et qu'il peut identifier. Voilà une vue, je veux dire, de l'article de Keramopoulos. Vous êtes vu sur depuis l'Académée, les pentes de l'Académée. Regardez vers le sud-est. Voilà le cimetière moderne avec ses cyprès. Et puis ici, vous avez le site de l'Isménion. Donc cette distance par rapport à l'Académée, avec un vallon, une espèce de chemin creux qui a joué son importance. Le temple est donc un temple dorique dont il reste quelques vestiges, et on voit un beau chapiteau, précisément un beau chapiteau dorique. Le sanctuaire d'Apollon Isménios, comme il résulte du plan qu'on peut être retrouvé ici, il est selon lui à l'intérieur de l'enceinte, ce qui est une proposition tout à fait nouvelle par rapport à ses devanciers. Et aussi une hypothèse a priori vraisemblable, puisque les Thébains avaient intérêt à protéger un sanctuaire aussi important avec ses trésors. L'autre trouvaille capitale des premières années du XXe siècle fut celle fortuite, mais immédiatement exploitée par Keramopoulos à partir de 1908, ici, d'une entrée dans l'Académie, des pulailles, que Keramopoulos n'eut aucune peine, car les textes étaient tout à fait convergents, celui de Pausanias, en 8, 7 en particulier, puisque Pausanias dit que les portes que l'on emprunte quand on vient du sud, quand on vient de quand on vient d'Éleuthère et de l'Attique, ce sont les portes Electrae, les pulaies Electrae. Hein. Et c'est là, effectivement, que Kéramopoulos découvre... les photos sont empruntées aussi. Elles, les vestiges subsistent aujourd'hui, mais peut-être dans un état moins net. Deux tours rondes qui encadrent une entrée monumentale. Et voilà le plan dressé par Kéramopoulos, passage de magnifiques constructions dont plusieurs assises sont conservées. Porte Electrae. L'identification, encore une fois, ne fait aucun doute. Eh bien, on peut dire que le plan de Thèbes, publié par Kéramopoulos en 1917, devait marquer, sur bien des points, un progrès extrêmement sensible. Il a servi de base à tous les autres depuis lors. On pourrait faire la longue liste des auteurs qui s'en sont inspirés. Mentionnons peut-être au passage... Si je peux... Il me semble que l'appareil ne... Voilà, oui. Par exemple, dans une monographie qui est commode, qui est en anglais par M. Simeonoglou, Topography of Thebes, From the Bronze Age to Modern Times, de 1985, il fait, vous voyez, un plan général, ici, un plan général de la ville basse, qui est à peu de choses près, vraiment, celui de Kéramopoulos, et puis un plan tout à fait distinct de l'Académée, qui donc reprend ceci, avec l'indication de divers sites. C'est aussi le plan, à peu de choses près, de Paparazzis, qui est le valeureux commentateur en grec moderne de Pausanias, dans les années 1980. Puis, c'est également, tout récemment, en 1998, le plan que publie dans une monographie en grec, de Thébaïka, comme son prédécesseur Kéramopoulos, l'archéologue Nikolaos Faraklas, celui-ci en couleur, qui marque tout de même une avancée sur certains points. Il est plus complexe, surtout sur le plan des phases de cette enceinte. Hein. Il montre que la ville archaïque n'englobait pas seulement l'Académée, ça c'était une chose assurée, puisque l'enceinte de l'Académée, l'enceinte mythique de l'Académée, archéologiquement, est aujourd'hui, il est assuré aujourd'hui qu'elle remonte au moins à l'époque mycénienne, mais à l'époque archaïque, avant les guerres médiques, c'est déjà toute la partie est de la grande Thèbes qui était ainsi englobée dans la ville. Puis, à l'époque classique, alors c'est le tracé vert, la grande des deux côtés, la grande cité de Thèbes. Mais une nouveauté de ces dernières années, c'était de prouver que la reconstruction de Thèbes après 335, en bleu, épousait pratiquement exactement le tracé d'avant Alexandre, d'avant 335. Donc une entreprise singulièrement importante. Les choses ne cessent de progresser, on le verra encore un autre moment, puisque à la fin de l'année 2004, il y a moins de deux ans, l'effort actuel Vassilios Aravantinos, outre ses travaux très importants au centre de l'Académée, autour du palais de Cadmos, du palais mycénien, a découvert tout près des portes Electrae, ici, juste au sud, le sanctuaire d'Héraclès, Héracléon, qui joue un rôle important dans la topographie. On le verra tout à l'heure au séminaire et aussi plus tard. Voilà donc pour cette évocation de l'histoire, longue histoire, enfin un siècle de recherche en tout cas, autour de la topographie générale de Thèbes. J'aimerais maintenant, dans la seconde partie de cette leçon, montrer que, en dépit des indéniables progrès, incontestables progrès de la recherche topographique, les problèmes restent nombreux, et choisir un cas particulier, en l'illustrant par une étude à la fois philologique et archéologique, où l'épigraphie a aussi son petit mot à dire, c'est la question relativement peu étudiée du tombeau attribué par la tradition à un héros thébain, le prétendu Kaanthos, et précisément au sud de l'Académie, donc dans une région qui est assez bien connue. Ici, vous avez sous les yeux un plan de Siméonoglou qui montre quelles sont les zones visitées par Pausanias. Autant qu'on peut voir, nous sommes donc dans ce secteur sud-est de la Cadmée. Les portes d'Electrae, sanctuaire d'Héraclès, qui est mal localisé, hein, puisque Siméonoglou écrivait ça en 1985, alors qu'il faut le rapprocher sensiblement des portes Electrae. L'Ismenion étant ici dans l'angle sud-est non visible sur ce plan. Alors, voici le texte de Pausanias qui fera l'objet de notre examen. Changeons. C'est celui-ci. Ça se trouve au chapitre 10-5. En effet, non loin de l'Ismenion, dit Pausanias, plus près encore de la fontaine d'Arès, se trouvait, selon lui, un tombeau héroïque. Taphos esti Kaanthou. Le Périégède rapporte que ce personnage, d'ascendance divine, puisque la tradition dont il s'est fait l'écho le regardait comme un fils d'Okeanos, grande divinité primordiale, avait osé mettre le feu au Téménos d'Apollon Isménios, qui ne s'appelait pas encore Isménios à ce moment-là, pour se venger du rapt commis par le dieu sur la personne de la nymphe Mélia, nymphe attachée à une source, qui était la propre sœur du héros thébain. Cet acte d'Ibris lui valut d'être cruellement puni par Apollon, qui l'abattit d'une de ses flèches, d'où la présence d'un monument funéraire au voisinage de son sanctuaire, Kaanthou, la phrase 6, vous voyez, Kaanthou men entauta esti mnema. Mélia, nymphe autochtone, vraiment fait partie de ces divinités fondamentales de Thèbes, selon Callimaque, le poète hellénistique, est une figure assez bien connue de la mythologie thébaine, puisque Pindare en particulier la mentionne plusieurs fois dans ses œuvres, à la fois les Épinicies ou d'autres œuvres qui nous sont connues par des fragments par des papyrus. Il la célèbre diversement, montrant par là qu'elle est, elle est vraiment une figure connue. Et les fils que cette nymphe eut d'Apollon, à savoir Isménos et Ténéros, appartiennent également au fond le plus ancien de cette mythologie, comme en témoigne leur lien d'une part avec Apollon, des grands dieux de Thèbes, et le fait que leurs noms sont également ceux de sont également des toponymes. Isménos, le fleuve qui se trouve qui n'est pas présent ici mais que vous avez vu plusieurs reprises du côté est de la ville, et puis Ténéros qui donne son nom à la plaine Ténérique, une plaine au nord-ouest de Thèbes. Voilà des personnages bien connus. On ne peut pas en dire autant de Kaanthos. Aucun auteur ne semble le connaître, en dehors de Pausanias, pas même les scoliastes des poètes de Pindare, de Lycophron, quand ils évoquent la figure de Mélia. Alors, les commentateurs de Pausanias, les modernes, se sont contentés de paraphraser cet unique témoignage. Mais il y a un peu moins d'un siècle tout de même, en 1910, un remarquable papyrus d'Oxyrhynchus en Égypte a livré une nouvelle mention sous une forme un peu différente de ce personnage. Voici le texte, papyrus 10-1241 de cette remarquable collection. De quoi s'agit-il? Eh bien, comme l'ont montré les éditeurs, Grenfell Hunt, il s'agit d'un catalogue qui recense diverses célébrités des arts et des lettres, mais qui fait mention également d'inventeurs d'un tout autre type, en l'occurrence de ceux qui les premiers se rendirent coupables d'un fratricide. Or, à notre grande surprise, on constate que ces deux frères ennemis n'étaient pas, comme on aurait pu évidemment l'imaginer, Éthéocle et Polynice, les fils d'Édipe, mais leurs compatriotes Isménos et Cleiatos, Adelphon de Proton Legusin Genestai, Phonus Entebais, Ismenu, Kai Cleiatou, Ton Dokeanu, Peri Melias, au sujet de Melian, leur sœur Thès Adelphès. Donc, selon cette version, ce n'est pas avec Apollon lui-même que le mystérieux héros thébain était entré en conflit au sujet de sa sœur Mélia, mais avec son propre frère, qui ne serait autre, car on peut dire que la restitution est assurée, Isménos. Dès lors, le lien de ce dernier avec Apollon n'aurait pas été de simple filiation, comme dans la version adoptée par Pausanias, mais un lien d'une autre nature. Ce qui ne saurait en tout cas faire de doute, c'est que le Kantos de Pausanias et le Cleiatos du papyrus d'Oxyrhynchus ne font qu'un, sont la même, sont une seule et même personne. De cela, encore une fois, aucun chercheur n'a douté. On a considéré donc que Cleiatos était une variante fautive de la forme Kantos des manuscrits de Pausanias. Tous les auteurs, dans tous les travaux que vous pouvez consulter, ont donc retenu la forme Kantos, que vous voyez ici, dans une édition récente de Pausanias, comme si le nom était bien établi. Il y a eu quand même quelques voix discordantes, notons-le, celle d'un un grand savant d'autrefois, Karl Robert, spécialiste de la mythologie, qui dans un ouvrage un peu oublié aujourd'hui de 1915 sur Édipe et toute la légende d'Édipe, très peu après la publication du papyrus, exprimait l'idée que ni Cleiatos ni Kantos ne pouvait être le nom authentique de ce héros. Mais il ne pouvait proposer aucune correction, se contentant d'adopter une forme un peu hybride, peut-être par inadvertance d'ailleurs, et il suggérait, ce qui me paraît pas moins important, de voir dans ce héros, quel que soit son nom, un dieu fleuve. Pourquoi un dieu fleuve? Parce qu'il était le frère d'Isménos, dieu fleuve a tout à fait assuré. Donc, bien que Karl Robert n'ait pas abouti à une solution claire, sa position me semble tout à fait raisonnable. Car il me semble évident que Cleiatos est un nom corrompu, il n'est pas défendable en grec. La variante Kantos, que l'on croit pouvoir adopter partout, ne saurait pas non plus être défendue à la réflexion. L'élément, certes, Antos entre dans beaucoup de noms, mais K, que voulez-vous faire de K? Ça ne se rattache à rien de connu, et surtout, ce nom n'est phonétiquement pas admissible. Ce hiatus aurait dû se résoudre rapidement en Kantos. Alors, faut-il défendre Kantos? Oui, on pourrait être tenté de le faire, puisque le nom Kantos est attesté. C'est le nom d'un argonaute d'origine eubéenne. Il a donc pu exister en Béotie. On trouve en Tédon, par exemple, le nom Kantis pour une femme. dans c'est le numéro 4204 du corpus béotien. Cependant, si le héros s'était appelé ainsi Kantos, on ne comprendrait pas, si vous voulez, paléographiquement parlant, comment ce nom se serait déformé en Kantos, Kleiatos, dans nos deux textes. Et on constate que le nom Kantos n'est absolument pas attesté à Thèbes, sous aucune forme. Il y a donc un contraste considérable entre le succès qu'a connu le nom Isménos dans l'anthroponymie thébaine, avec des innombrables Isménodoros, Isménoclès, Isméniketas, Isménias, etc. Sans oublier l'héroïne Ismène, Isménée, notre Ismène. Un autre nom doit donc se cacher derrière Kantos et Kleiatos. On pourrait être tenté aussi d'y chercher, paléographiquement, ce pourrait être défendable, le nom Kanatos, Kanetos. Mais ce nom Kanatos n'est pas attesté dans le mythe thébain. On le rencontre certes dans l'Eubée voisine, sous la forme Kanetos. C'est aussi le nom d'une colline toute proche de Chalcis, ça veut dire en Eubée et pas sur la côte béotienne, contrairement à ce qu'on a pu croire souvent. Mais surtout, il y a une objection rédhibitoire, c'est que ce héros éponyme Kanetos, de l'Eubée proche, il offre une filiation mythologique totalement différente de celle du frère de Mélia. Loin d'être comme lui le fils d'Okeanos, il était fils du héros éponyme des Abantes de Bé, de Abbas, et son fils est un argonaute du nom de Kantos. Donc ça ne colle pas, pour le dire familièrement. Il faut se diriger dans une autre direction, manifestement, pour résoudre l'irritant problème posé par les formes Kantos d'un côté, Kleiatos de l'autre. En vérité, il y a bien longtemps déjà, qu'est apparu dans l'épigraphie béotienne, un nom assez remarquable. Ce nom, c'est Kaluntos. Kaluntos. Il est attesté sans l'ombre d'un doute, sous cette forme masculine, par un décret fédéral béotien découvert à Oropos, dans le site de l'Amphiaraïon, un décret de la fin du IIIe siècle, où l'on voit que le personnage qui fait la proposition du décret s'appelle Potidaikos Kalunto, forme donc dialectale, fils de Kaluntos, Antadonios, Dantédon. Dantédon, me direz-vous, c'est Thèbes, c'est une autre ville que Thèbes, mais en fait Antédon était toute proche de Thèbes, et mieux, elle était, cette ville a été longtemps partie intégrante du territoire de Thèbes. Donc on est vraiment dans le monde thébain. Et au surplus, sous sa forme féminine, Kaluntis, le nom est attesté deux fois à Thèbes même, par une inscription, une stèle funéraire du 5e siècle, Kaluntis, IG7, 2500, je ne vois pas sur le tableau, vous le lisez mieux que moi. Et puis, chose remarquable, dans la proche cité voisine d'Érétrie, on a l'épitaphe d'une Thébaine qui s'appelle Kaluntis. Donc un nom typiquement de Thèbes et de son voisinage. Je pense donc que le nom authentique du héros Kantos Kleiatos était Kaluntos. Kaluntos. Et on peut très aisément comprendre l'erreur paléographique dans un manuscrit, surtout en capital, en oncial, entre Kaluntos, avec ses nombreuses lettres triangulaires, qui passent à Kantos, et qui donc est adopté ensuite, évidemment, dans les trois mentions qui sont faites du nom. Le nom Kaluntis, d'ailleurs, avait déjà retenu l'attention de certains dialectologues, comme Fritz Bechtel, spécialiste des noms propres, et sans connaître encore de Kaluntos, il connaissait seulement Kaluntis. Il disait probablement qu'il existe un nom Kaluntos qui doit être un ancien toponyme, comme un toponyme préhellénique, comme Oluntos, comme Amaruntos. Hein. Ce sont des suffixes bien connus. Et d'ailleurs, chose paradoxale, le nom Kaluntos, il existe dans Pausanias, dans un autre passage du livre 10, où les éditeurs ont toujours voulu corriger ce nom Kaluntou, qu'ils ne comprenaient pas. Hein. C'est le nom d'un sculpteur qui travaille aux côtés de Donatas d'Égine dans un monument de Delphes, 10, 13, 10. Et ne connaissant pas ce Kaluntos, on a voulu corriger son nom. En réalité, il faut le laisser là. C'est le nom authentique, attesté, confirmé par l'épigraphie. Ce qui me conforte encore dans cette conviction, c'est qu'en fait, comme je m'en suis aperçu beaucoup plus récemment, la correction que je propose de faire, elle a été faite, elle a été proposée, suggérée par Keramopoulos lui-même en 1917. Mais cette idée n'a trouvé aucun écho, aucun. Hein. Elle a été ignorée totalement par les philologues et les archéologues parce que son travail était peu connu, peu diffusé, et aussi, peut-être surtout, parce que Keramopoulos n'y croyait pas vraiment. Il ne l'a pas, il a mis cela dans une note de bas de page, il ne l'a pas adopté dans son travail, et peut-être surtout, il n'a pas su montrer, et d'abord apercevoir, l'intérêt de cette substitution pour la mythologie et la topographie thébaine. Parce que, enfin, à quoi pourrait bien servir de corriger le texte de Pausanias si cela revenait à troquer un héros inconnu, Kantos, pour un personnage tout aussi obscur? Il faut bien qu'il y ait un progrès du point de vue de l'exégèse. Et il me semble que pour mieux comprendre ce qui se cache derrière cette figure a priori digne de considération, puisqu'on la voit liée au plus ancien panthéon thébain, Apollon en particulier, il faut nécessairement faire un pas supplémentaire, adopter une identification très naturelle suggérée par Francis Vian dans son ouvrage bien connu sur les origines de Thèbes. En effet, ce philologue s'est demandé, autour d'une note, un peu inaperçue, s'il n'y aurait pas lieu d'établir entre l'anthroponyme thébain Kaluntis, car il ne connaissait pas de Kaluntos encore, n'étant pas épigraphiste, entre Kaluntis et un roi mythique qui apparaît sous la forme Kaludnos, dont fait mention en particulier le poète hellénistique Lycophron de Chalcis, dans son poème Alexandra 1209, quand il évoque l'arrivée des restes du Troyen Hector vers la forteresse de Kaludnos et la terre des Aoniens. Et la terre des Aoniens, c'est-à-dire la terre des Thébains. Aoniens, Aonio, c'est un ethnique ancien pour les Thébains. Et on voit que selon le lexicographe byzantin Stéphane de Byzance, sous le mot Kaludna, il indique que c'est aussi non seulement une île de l'Égée, mais c'est aussi la ville de Thèbes qui vient de Kaludnos, fils d'Ouranos. Donc, il y a là une tradition tout à fait intéressante, puisque on a un personnage, un roi mythique qui s'appelle Kaluntos et qui donne son nom à la plus ancienne ville de à la plus ancienne ville de Thèbes.
Bye.
c'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé. Votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire. Cette semaine, histoire des classes sociales et ce matin, mémoire de groupe, la création des syndicats de cadres. Création qui date des lendemains de la Libération. Une mémoire de groupe suivie d'un débat en compagnie d'Alain Chatriot, historien, chargé de recherche au CNRS. 10h, les humanités. Ce matin, les mardis littéraires se consacrent aux images avec Jean-Hubert Gaillot, auteur de Bambi Frankenstein, édition L'Olivier. Chloé Delhomme, auteur de « J'habite dans la télévision », édition Verticale, et Laure Limongi, auteur de « Fonction Elvis », édition Léo Cher. 11h, les chemins de la connaissance, cette semaine, psychanalyse, la nouvelle clinique, invité ce matin Marie-Hélène Rousse pour évoquer l'angoisse aujourd'hui. Allez, réveillez-vous, les matins de France Culture ont sonné, l'heure de retrouver Ali Badou et son invité.
Bonjour à tous et merci d'écouter France Culture, il est 6h58 et au sommaire des matins ce mardi 5 septembre, voilà j'arrive à le dire, c'est la rentrée des classes, quelques petits problèmes de dyslexie. À 7h20, les enjeux internationaux aujourd'hui iront à Cuba, les vulnérabilités du régime et du système politique cubain, dans la perspective de la disparition de Fidel Castro, c'est le sujet qu'abordera Thierry Garcin. Et à 8h20, notre invité sera l'avocat Jean-Marie Burguburu. C'est l'ancien bâtonnier du barreau de Paris. On parlera avec lui de la réforme de la justice. Vous vous souvenez évidemment des travaux de la commission d'enquête parlementaire l'année dernière sur les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau. Justement, le projet de réforme qui doit en tirer les enseignements devrait être bouclé dans les tout prochains jours. Réforme que le gouvernement voudrait voir aboutir avant la fin de l'année. Le projet du garde des Sceaux devrait être soumis au Conseil d'État dans la semaine. Alors quelques-unes des mesures phares prévues dans ce conseil du projet, l'enregistrement des gardes à vue et peut-être aussi des rendez-vous d'instruction. Autre réforme importante, celle du Conseil supérieur de la magistrature et de la responsabilité des magistrats. Le dossier est très urgent, c'est ce que disent la plupart des acteurs du monde judiciaire, mais il est très sensible. Cible aussi particulièrement à quelques mois de l'élection présidentielle. On y revient donc tout à l'heure avec notre invité, l'avocat Jean-Marie Burguburu. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le premier... premier journal de la matinée nous est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali et bonjour à tous. Premier contingent arabe pour le Liban, c'est le Qatar qui l'enverra pour renforcer les rangs des casques bleus. Quant aux troupes venues de pays musulmans souhaitées par l'ONU, la Turquie doit approuver ce mardi l'envoi d'un millier de soldats malgré l'opposition de la population et le débat que cela suscite dans le pays. Nous en parlerons dans un instant. Le Liban, le Hezbollah comme Israël ont accepté une médiation de l'ONU pour l'échange des prisonniers. Le Liban, où l'on meurt encore dans l'explosion de bombes, ce sont les munitions non explosées larguées par l'aviation israélienne. Nous écouterons le reportage d'Olivier Denré. En France, nous reviendrons sur ces charges que l'on s'envoie allègrement dans la classe politique, alors que s'exacerbe la course des prétendants. Ségolène Royal lance un appel au calme. Et puis nous verrons que la colonisation et ses valeurs continuent à faire débat. Le CRAN demande le retrait du petit Robert 2007. Il conteste la définition qu'il donne à ce terme. Le vote du Parlement semble acquis, mais le débat continue à diviser et à agiter la société turque comme la classe politique. C'est de l'envoi de casques bleus au Liban qu'il s'agit. Les députés doivent l'approuver dans la journée, alors que Kofi Annan ne boucle par Ankara son périple proche-oriental. Mais les craintes ne sont pas pour autant apaisées. Il y a, font valoir les détracteurs, les ambiguïtés de cette mission assimilée à un bourbier. Il y a le risque de conflit entre sunnites et chiites, alors que la Turquie est sunnite. Il y a aussi l'histoire. Les troupes ottomanes ont occupé, colonisé le Liban. Y revenir pourrait être mal perçu. D'où cette réunion, convoquée par le chef du gouvernement, Recep Tayyip Erdogan, pour tenter de rassembler ses députés. Depuis Istanbul, c'est une correspondance de Jérôme Bastion.
C'est à endosser une responsabilité historique que le chef du gouvernement a longuement appelé ses députés hier soir, réunissant son parti à huis clos pour un dernier long briefing, ou pourrait-on dire, une véritable leçon de courage en politique internationale. Principal argument contre l'envoi de soldats turcs au Liban, nous avons suffisamment de problèmes avec le terrorisme kurde pour nous permettre de disperser nos forces, défendre le chef de l'État, l'opposition politique et même certains des élus du parti de gouvernement. Monsieur Erdogan leur a rappelé que la mission d'un militaire ne pouvait se limiter à la seule lutte antiterroriste et que défendre la paix dans la région serait tout aussi utile pour les intérêts de la Turquie. Il devra surtout les avoir convaincus que le mandat onusien n'implique aucune obligation de désarmer le Hezbollah et que le risque de confrontation est limité au minimum. Sur 355 représentants du Parti de la Justice et du Développement, seule une vingtaine sont supposés voter non lors de ce scrutin à bulletin secret et donc sans consigne de vote. Sur une assemblée de 550 sièges, c'est donc suffisant pour que Recep Tayyip Erdogan puisse annoncer dans la soirée à Kofi Annan, qui boucle sa tournée régionale par Ankara, l'envoi d'environ 1000 soldats turcs au Liban.
Le Qatar a lui été le premier pays arabe à annoncer hier son engagement dans la finule. Il sera de l'ordre de 200 à 300 hommes. Le Qatar qui a également forcé le blocus aérien imposé par Israël en effectuant le premier vol direct commercial Doha-Beyrouth. C'était un appareil de la compagnie Qatar Airways transportant 142 passagers. Le gouvernement libanais appelle d'ailleurs les autres pays à faire de même. Il compte aussi porter plainte aux Nations Unies contre Israël qui maintient ce blocus aérien et maritime en violation de la résolution 1701. On le sait, Kofi Annan a plaidé en vain en ce sens auprès de l'État hébreu. Kofi Annan, dont la tournée a toutefois permis des avancées sur la finule, mais également sur le dossier d'échange des prisonniers. Le secrétaire général de l'ONU a pu annoncer hier que le Hezbollah, comme Israël, avait accepté une médiation onusienne qui se fera, cela dit, dans la plus grande discrétion. Le nom du médiateur sera ainsi gardé secret. Le blocus économique, l'échange des prisonniers, autant de questions non encore résolues 3 semaines après la fin du conflit. La fin de la guerre, oui, mais pas celle des morts dans l'explosion de bombes. Ces bombes à sous-munitions, des petites bombes à retardement lâchées par Israël dans les derniers jours de la guerre. Elles empêchent les paysans de revenir travailler leurs champs dans un pays où l'agriculture est l'une des sources importantes de revenus. Elles empêchent un quart des déplacés, soit 250 000 personnes, de rentrer chez elles. Les équipes de démineurs sont déjà à pied d'œuvre. Écoutez le reportage d'Olivier Denré. Il s'est rendu au pied du château de Beaufort, dans le sud-est du Liban.
Vous avez un petit ruban et votre sous-munition qui est là.
C'est pas plus gros qu'une grenade. C'est fait quand même pour taper des véhicules blindés. C'est très puissant et celle-ci est armée. Donc à chaque fois, on la neutralise. On la met dans un seau avec toutes les autres. et on ira les détruire un peu plus loin, à l'extérieur du village.
Des petites bombes comme celle-là, en moins de 10 minutes, les démineurs de MAG, une ONG britannique, vont en trouver 4 au pied de la maison qu'ils explorent. Frédéric Gras supervise les opérations. Pour les désamorcer, il met du scotch sur le détonateur.
C'est vraiment tout petit. Il y en a beaucoup dans les jardins. Donc les gosses, quand ils voient ça, on pense que c'est un jouet ou que c'est assez rigolo. Donc ils les prennent, ils jouent avec.